Bonjour Hugo.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. C'est une affaire qui n'en finit plus d'éclabousser l'Élysée, celle qui porte le nom de ce proche conseiller d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla est en garde à vue depuis hier, tout comme son compère Vincent Raze. Et ils ne sont plus les seuls. Soupçonnés d'avoir fourni les images de vidéosurveillance à Benalla, trois fonctionnaires de police sont en garde à vue depuis ce matin. Le point sur l'enquête dans ce journal. Et en marge du volet judiciaire, il y a bien évidemment le volet politique. Les membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale ont enfin trouvé un accord. Gérard Collomb sera entendu lundi matin à l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur ira le lendemain s'expliquer devant le Sénat. C'était il y a 2 ans, Adama Traoré, décédé dans les locaux de la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise après une interpellation musclée. Depuis, l'enquête piétine, la famille crie au déni de justice et appelle à une marche anniversaire. Elle aura lieu cet après-midi à Beaumont-sur-Oise, la ville d'origine d'Adama Traoré. Il n'y a pour lui plus aucune raison d'attendre, libre de quitter l'Indonésie depuis ce matin. Michael Blanc est sur le point de s'envoler pour la France. Un retour au pays après avoir passé 19 ans coincé dans l'archipel pour une affaire de trafic de stupéfiants. C'est une coopération franco-russe inédite. Paris et Moscou vont envoyer 50 tonnes d'aide médicale à destination de la région syrienne de la Route orientale. Un avion russe est d'ailleurs arrivé hier en fin d'après-midi à Châteauroux pour charger la cargaison. La justice accélère dans le dossier Benalla. Les gardes à vue du chargé de mission auprès de l'Élysée et de son ami Vincent Kras pour avoir molesté des manifestants le 1er mai dernier ont été prolongés de 24 heures. Le domicile d'Alexandre Benalla dans les Hauts-de-Seine a également été perquisitionné. Et ce n'est pas tout. Ce matin, le parquet de Paris a placé en garde à vue les trois policiers déjà suspendus. Ils sont soupçonnés d'avoir transmis des images de vidéosurveillance à Alexandre Benalla, Delphine Gauthier.
Ce sont trois cadres de la DOPC, la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation, qui sont aujourd'hui entendus par la police judiciaire pour détournement d'images et violation du secret professionnel. Le contrôleur général Laurent S, le commissaire Maxence C et le commandant Jean-Yves H, âgés de 30 à plus de 50 ans. Ces trois policiers sont soupçonnés d'avoir transmis à Alexandre Benalla des images de vidéoprotection du 1er mai, le jour même des révélations du Monde, c'est-à-dire mercredi. Ces trois fonctionnaires ont déjà été suspendus par leur hiérarchie avant-hier. Et en plus des poursuites judiciaires, ils font l'objet d'une enquête préliminaire de l'IGPN, la police des polices. Un quatrième policier de la DOPC est dans le viseur de la justice, mais pour le moment, il n'a pas encore été entendu. Il s'agit de Philippe M., major de police et chargé de prendre en charge Alexandre Benalla pendant la manifestation. C'est lui que l'on voit laisser faire lorsque le collaborateur d'Emmanuel Macron frappe violemment le jeune manifestant.
Les précisions de Delphine Gauthier pour France Culture. Et l'implication de policiers gradés dans cette affaire pose une question. Dans quelle mesure Gérard Collomb était au courant des agissements d'Alexandre Benalla? À ce sujet, l'Assemblée nationale entendra le ministre de l'Intérieur lundi matin. Au Palais Bourbon, on retrouve Jean-Jérôme Berthelus pour France Culture. Bonjour Jean-Jérôme.
Bonjour Hugo.
Les membres de la commission des lois sont donc enfin parvenus ce matin à se mettre d'accord sur un calendrier d'audition.
Oui, quelques points d'accord lors d'une séance qui a duré près de 3 heures avec tous les membres de la commission d'enquête transformée, la commission des lois transformée en commission d'enquête. Ils étaient environ une quarantaine, séance parfois houleuse, voire tendue. Accord effectivement sur l'audition de Gérard Collomb dès lundi 10h, celle de Michel Delpech, aussi le préfet de police de Paris, dans l'après-midi. Accord sur le fait que les auditions seront publiques, sauf cas exceptionnel. Désaccord en revanche sur la liste des personnes auditionnées. Par exemple, la présidente de la commission d'enquête, Yaël Braun-Pivet, souhaite que à l'Élysée, eh bien, le directeur de cabinet du président de la République soit entendu. Ça n'est pas suffisant pour l'opposition qui souhaite, par exemple, que Bruno Roger Petit, le porte-parole de la présidence, ou encore Alexis Kohler, le secrétaire général de la présidence, le numéro 1 de l'Élysée, soient également entendus, comme les permanents du mouvement de la République En Marche, Vincent Kras, qui est toujours effectivement en garde à vue, mais également Christophe Castaner, le délégué d'En Marche. Il n'y a pas eu de vote. Nous avons échappé au pire, me disait effectivement un député En Marche. Les débats se poursuivent maintenant en séance, dans l'hémicycle. Pas sûr que l'Assemblée puisse reprendre ses travaux sur la révision constitutionnelle.
Jean-Jérôme Bertolus en direct de l'Assemblée nationale pour France Culture. Pour beaucoup, il est devenu le symbole des violences policières. Adama Traoré aurait eu 26 ans avant-hier le 19 juillet. Il y a deux ans, ce même jour, il est mort d'asphyxie à la suite de son interpellation à la gendarmerie de Persan dans le Val d'Oise. Mais les causes du décès restent à ce jour indéterminées. Une fragilité cardiaque ou le plaquage ventral pratiqué par les forces de l'ordre pour le maîtriser. Clotilde Ravel, bonjour.
Bonjour.
Un rassemblement de soutien aura lieu cet après-midi à Beaumont, la ville d'origine d'Adama Traoré. Car deux ans après les faits, l'enquête donc peine à avancer.
Oui, la procédure est au point mort depuis plusieurs mois. Un nouveau rapport médical pour définir les causes de la mort d'Adama Traoré aurait dû être rendu en mai, puis en juillet. Ce sera désormais fin septembre. Il faut savoir que c'est la troisième expertise ordonnée dans ce dossier, avec une inconnue au cœur de l'affaire. Le plaquage ventral, cette méthode d'interpellation dangereuse mais autorisée, est-elle, oui ou non, en cause? Deux ans après les faits, les trois gendarmes qui ont procédé à cette interpellation n'ont toujours pas été entendue par les juges d'instruction. Au grand dam de la sœur d'Adama, Assa Traoré, elle était l'invitée d'Amélie Perrier sur France Inter ce matin.
Aujourd'hui, on est clairement dans un déni de la justice à Paris. Ça fait deux ans que les gendarmes n'ont toujours pas été entendus, inquiétés, mis en examen. Ça fait deux ans. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que la justice peut aller très vite. Et on voit que sur l'affaire de Montfers, ça va au ralenti. Là, c'est repoussé encore jusqu'au 30 septembre. Donc bien évidemment, pour moi et pour toute ma famille, c'est une volonté réelle d'étouffer l'affaire de mon frère sur le temps.
Mercredi, Assa Traoré a également publié une lettre ouverte à Emmanuel Macron et Nicole Belloubet. La vie d'Adama Traoré, citoyen français, ne valait pas moins qu'une autre. Sa mort mérite des réponses, écrit-elle. Pas de réaction du président. En revanche, la sœur de la victime peut compter sur des soutiens politiques. Le NPA, la France Insoumise, qui a appelé à rejoindre massivement la manifestation, mais aussi le Parti communiste, Génération de Benoît Hamon et Europe Écologie Les Verts, tous réunis derrière un slogan commun, vérité et justice pour Adama.
Merci Clotilde Ravel. C'est l'histoire d'un retour après un long calvaire qui aura duré 19 ans. Arrêté en 1999 en Indonésie avec plusieurs kilos de haschich cachés dans des bouteilles de plongée, Michael Blanc va pouvoir enfin retourner en France. Après 14 années passées derrière les barreaux et depuis 2014, un contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Une restriction qui s'achève donc aujourd'hui. Sa mère, Hélène Letouzé, est toujours restée à ses côtés pendant cet interminable combat judiciaire. Et elle le sait, son fils va tout de même devoir patienter encore un peu avant de pouvoir tourner la page.
C'est sûr qu'il va falloir qu'il s'attende à être un peu sollicité au départ, peut-être parce que beaucoup de personnes ont suivi son histoire. Et en fait, c'est aussi grâce à toutes ces personnes qui ont suivi son histoire et qui nous ont aidés par tous les moyens possibles et imaginables. Certains, c'était simplement en signant des pétitions, d'autres, c'était en écrivant des articles, justement, pour attirer l'attention. D'autres, c'était comme Thierry Ardisson, en faisant des émissions qui nous ont permis de financer le fait que je puisse rester ici et m'occuper de son dossier. Donc je pense qu'il y a aussi un devoir de réserve d'un côté qui nous est demandé de toute façon, et puis d'un autre côté moi j'estime que j'ai un devoir de reconnaissance aussi pour toutes les personnes qui m'ont aidé et voilà.
Hélène Letouzé, la mère de Michael Blanquet, donc sur le point de rentrer en France. Le calme est revenu autour de la bande de Gaza. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas semble être respecté. Conclu la nuit dernière, cette trêve intervient au lendemain d'un bombardement massif qui a suivi la mort d'un soldat israélien tué par des tirs de Palestiniens. Une escalade de violence qui a également coûté la vie à 4 Palestiniens. La France et la Russie vont donc effectuer une opération humanitaire conjointe vers la Syrie. Au total, 50 tonnes de matériel médical pour les habitants de l'enclave syrienne de la Ghouta orientale, durement touchés après une longue offensive militaire au début de l'année, vont donc être acheminés. C'est la première fois que la France intervient dans une région détenue par le régime syrien. Cette première a été négociée directement entre les présidents russes et français. Et le feu vert de l'opération a été donné hier soir depuis la base militaire de Châteauroux dans le département de l'Indre, Nathanaël Charbonnier.
L'avion est russe, l'aide est française, la distribution se fera sur place grâce aux Nations Unies. Il s'agit de venir en aide aux 700 000 personnes qui vivent toujours dans cette partie de la Syrie, reprise dernièrement par les troupes de Bachar al-Assad. L'aide française de 50 tonnes, plus de 400 000 euros, est composée de médicaments, de compresses, ainsi que de biens de première nécessité. Voilà pour les faits, reste maintenant l'enjeu de cette opération qui lui est très politique. La France, en acceptant d'agir en collaboration avec les Russes, entend montrer sa bonne volonté. Dans le dossier syrien, deux blocs s'opposent. Celui dit d'Astana, qui rassemble Russes, Iran et Turquie, et celui dit du Small Group, qui compte notamment Anglais, Américains, Égyptiens et Français. Or, la paix en Syrie passera obligatoirement par un rapprochement de ces deux groupes. La France, en mettant un pied dans le camp adverse grâce à ce levier de l'humanitaire, entend dire aux Russes et aux Syriens « Vous voyez, on peut travailler ensemble ». La Russie, en acceptant de répondre favorablement à la main tendue par la France, semble elle dire que oui, le message est reçu.
Nathanaël Charbonnier pour France Culture. La météo cet après-midi entre pluie et éclaircies, temps humide du Pays Basque au nord-est de la France. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue.